Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, guten Abend, bonsoir, good evening, wie geht's? Do you feel good? Comment ça va?
Bonsoir, c'est la causerie au 102.2 ou sur radiocanu.org. Et oui, c'est 22h, c'est dimanche et on est là. Donc ce soir, à la technique, nous avons Clara.
Bonsoir.
Et nous avons autour de la table aussi Jean-Yves.
Bonsoir, et c'est Fab qui faisait le lancement.
Bonsoir. Alors, si tu veux nous écrire, c'est lacauseriecanu@gmail.com, lacauseriecanu@gmail.com. Et cette variation de son que tu viens d'entendre t'est offerte par la technique. Et ensuite, si tu veux...
Cette amélioration du son amélioration. Est offerte par la technique.
Tout à fait. Merci, Clara. Et donc, du coup, tu peux aussi retrouver les émissions sur blogs.radiocanu.org/lacauseriecanu. Où tu tapes Radio Canu La Causerie et tu vas nous trouver parce qu'on est dans ton moteur de recherche. On est aussi sur les podcasts et on a eu un petit bug qui fait que tous les podcasts ont disparu et que seuls 10 sont revenus.
Non, c'est vrai.
Oui, mais c'est pas grave. Petit à petit, ils reviendront parce qu'il faut le temps que ça revienne. Mais voilà, mais bon, bah, c'est Jean-Yves qui joue avec le blog.
Voilà. J'allais le dire. Désolé, promis, je ne fais rien.
Il fait des trucs bizarres des fois.
Non, pas. Mais voilà, hein, c'est le côté de l'autogestion, n'est-ce pas?
Ouais, mais en tout cas, dans tous les cas, toutes les émissions sont sur le blog, les blogs de Radio Canu. Préférez les blogs. Ouais. On vous rappelle que les blogs, c'est gratuit, ça appartient à Radio Canu, c'est de l'autogestion. Et donc, il suffit de télécharger les émissions pour que ça marche encore mieux. Voilà, mais bon, bah, c'est pas du podcast aussi pratique que ce que vous avez peut-être ailleurs. Mais en tout cas, là, vous faites tourner un outil autogéré et vous ne donnez pas à manger à des gens qui sont des gros capitalistes. Voilà.
Oui, c'est ça.
Bah oui, c'est vrai.
Oui, oui, non, mais oui, tout à fait. Eh bien, c'est Fab qui va ouvrir le bal. Et ouais. Toi, tu vas nous parler des outils du mal.
Du mal absolu. De l'enfer. Ouais.
Je trouvais que c'était assez intéressant de le lancer comme ça, tu vois. Comme ça, ça pose tout de suite le sujet, le cadre.
Je vais vous parler des réseaux et d'Internet. Voilà. Oui, donc voilà. Donc ce soir, je vais vous parler des réseaux. Hein. L'une des choses quand même qui a fait évoluer notre perception du monde, faut arrêter de dire le contraire, parce que aujourd'hui, ils sont un peu au cœur de nos vies et de la vie en général et de la vie au sens aussi bien la vie personnelle que aussi bah, l'information, tout ça, tout ça. Alors, c'est la présence hein, donc d'Internet dans nos vies et des réseaux dits sociaux qui sont en fait des réseaux, on le sait, sociaux, commerciaux, évidemment, comme toute chose en capitalisme. D'ailleurs, c'est amusant hein, parce que peu de gens parlent de vélos mouvaux commerciaux, par exemple, hein, parce que je crois pas que les vélos soient encore gratuits, ou de livres écrito-commerciaux. C'est marrant, hein, ça n'entend pas. Pourtant, quand on parle des réseaux sociaux, il faut dire socio-commerciaux. Alors, c'est un détail. Hein. Bon, je suis un
c'est
peu taquin.
Une petite pour moi.
Ouais, un peu. Du coup, durant le reste de cette chronique, et par facilité et surtout simplicité, je dirais réseaux sociaux. Voilà, c'est juste parce que c'était trop long à dire le reste. Voilà.
Oui, non, mais oui.
Oui, non, bah. Alors, je sais que nous avons déjà abordé ce sujet dans la causerie. Je suis bien conscient de ça. Mais je voulais revenir dessus par rapport à ce qui se passe en ce moment dans le monde et la façon dont nous pouvons, nous, militants et militantes, hein, au sens large, avoir des informations en dehors des grands médias, finalement. Et surtout, parler de l'impact direct sur notre perception du monde que l'arrivée d'Internet a pu avoir, finalement, sans parfois qu'on le mesure quelque part. Alors, bon. Il y a le pire et il y a le meilleur. Ça, on est bien d'accord. Hein. Alors, dans un excès de moraline très poussé, dans nos milieux, hein, progressistes, anarchistes, Internet est vu comme le mal absolu. Voilà, c'est
pour le dire. Fait que je parle des outils du mal.
Ou l'outil de l'abrutissement de masse. Alors, oui. On va le dire tout de suite, qu'il n'est pas en fait, hein, clairement. C'est juste une image qu'on a donnée à Internet. Voilà. À croire que les livres ne font pas de l'abrutissement de masse. C'est vrai que quand on lit des trucs de développement personnel toute la journée, on n'est pas du tout abruti.
Tu te dis, t'as l'impression que avant que les réseaux sociaux commerciaux,
tout le monde était très intelligent.
Il y a eu aucun drame de l'humanité.
Non, rien.
Durant toute cette période-là, c'est vraiment le mal des réseaux.
Est la faute d'Internet. Ouais. Bon, souvent, l'exemple pris est de dire regarde le complotisme, j'arrive même pas à le dire, qui se répand. Hein, voilà. Ou t'as vu comme on peut y lire facilement les fachos. Ça, c'est les deux phrases que vous allez entendre le plus souvent pour vous expliquer pourquoi il ne faut pas aller sur les réseaux sociaux. Bon, alors, je vais le dire, moi, j'ai des gens dans la vraie vie qui parlent comme des fachos ou complotistes. Qu'est-ce que je fais? Je les tue? Donc voilà. Non. Bon, bah voilà. C'est d'ailleurs parce que nous ne sommes pas présents, finalement, nous, les progressistes, tout ça, sur le net, que le reste peut y être surreprésenté. C'est une question très capitalistique d'offre et de demande, pardon. on en a déjà parlé, d'ailleurs, dans l'émission. Mais au-delà de ça, il faut aussi noter que les mêmes qui ont ce discours ne le disent ni pour les livres, hein, parce qu'il est bien connu d'ailleurs, ou ni pour la presse papier, hein, par exemple, parce qu'il est bien connu, hein, qu'il n'y a pas de livre facho, ça n'existe pas, qu'il n'y a pas de livre d'extrême droite, pas de livre réactionnaire,
ni complotiste,
pas de presse facho, pas de presse réactionnaire, non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de journaux de merde, un ENE, non, bien sûr, Valeurs Actuelles n'existe pas,
plus que Rivarol.
Voilà, et tout à fait. En fait, il y en a plein, en réalité, et que ce qu'on voit en ligne, vous le voyez ailleurs, dans d'autres supports, qui pourtant semblent moins dérangé, peut-être parce que les gens ont plus l'habitude de lire papier, peut-être parce qu'ils sont un peu vieux. Je sais pas. Oh, ça va, c'est pour rire. Et là, ce n'est pas un souci en fait d'avoir nos journaux, parce qu'on a des journaux progressistes, donc finalement. Donc d'un seul coup, ce qui est vrai pour la presse, le papier, ne serait pas vrai pour l'internet. C'est un peu étrange, hein, mais voilà. En fait, je crains que l'on cache finalement notre incapacité à la modernité, en réalité, derrière notre petit doigt moraliste qui dit « c'est pas propre, c'est pas bien ». Voilà, j'ai un peu l'impression que c'est aussi ça qui fait qu'on n'y va pas, plus qu'autre chose. Oui, les réseaux sociaux et Internet peuvent ressembler à un immense PMU, oui, mais pas seulement. Et c'est pas parce que les PMU existent. Et d'ailleurs, moi, je vais le dire, j'ai une certaine affection pour les PMU, hein, parce que c'est souvent des lieux en réalité plutôt populaires. Donc, j'ai rien contre les PMU en tant que tel. Mais c'est pas parce que les PMU existent qu'on n'a pas à côté des bars vegan bio engagés dans lesquels on peut rentrer que si on porte le dress code qui va bien. Sinon, on est regardé de travers. C'est voilà. Donc, vous voyez, c'est un peu pareil sur Internet. Bon. Alors, en ce moment, hein, on va quand même le dire, en ce moment, Internet et les réseaux sociaux sont devenus quand même un accélérateur de beaucoup de choses, qu'on le veuille ou non. Alors, oui, je l'ai déjà dit au-dessus, des choses pas très, 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 très bien, et puis aussi des choses très bien. Et là, je vais parler en particulier de la capacité qu'offrent finalement ces moyens pour éviter la propagande, contrairement à ce qu'on croit, même si elle peut servir aussi à la diffuser. Mmh. C'est le paradoxe de tout média.
Oui, mais c'est ça, en fait. Voilà. Je veux dire,
Alors, dans les soulèvements ou les guerres, hein, le plus difficile, par le passé, c'était de ne pas tomber dans la fausse propagande, ou dans le fossé de la propagande, comme on appelait ça, c'est-à-dire de se retrouver, en fait, à être emmené dans un canal qui présentait les choses d'une certaine façon et de se faire une idée uniquement au travers de un ou deux médias et de, voilà. Bon. Qu'elle soit d'ailleurs d'un côté ou de l'autre, hein, cette propagande, qu'elle soit de ceux qui attaquent à ceux qui se défendent. La propagande, c'est un outil qui est utilisé, on le sait. On l'a vu récemment avec l'Ukraine et Zelensky qui s'est, par rapport au missile qui est tombé sur la Pologne. C'est un peu embourbé à, oui, mais c'est forcément les Russes. Bon, peut-être, en fait, c'est nous. En fait, on sait pas trop. On voit qu'il y a des outils comme ça, propagandaires, qui sont normaux parce que quand on a un conflit, eh ben, en fait, les personnes attaquées, elles ont souvent tendance à vouloir ramener à elles l'opinion. C'est comme ça et c'est parfaitement naturel, je dirais, entre guillemets, même si c'est fait avec des méthodologies qui sont discutables.
Ouais. Oui.
Mais aujourd'hui, la démultiplication en fait des moyens de diffusion, le fait que ces moyens sont de plus en plus individualisés, c'est-à-dire que tout le monde peut aujourd'hui faire de l'image et de l'information quelque part, faire son information, pas une information journalistique ou autre chose comme ça, mais montrer ce qu'il est en train de voir en réalité ou ce qu'elle est en train de voir, ça permet en fait en recoupant ce que l'on reçoit de se faire une idée plus précise et finalement plus personnelle des situations en cours. Et même s'il faut se méfier, hein, par essence, de n'importe quelle source, et d'ailleurs même de la causerie et même de Radio Canut, mmh. parce que c'est le principe, rester, garder l'esprit critique, par définition, la démultiplication des sources individuelles sur un événement permet d'en reconnaître finalement la véracité, c'est-à-dire que ça permet d'établir un faisceau de preuves qui nous permet d'avoir une vision un peu plus juste de certains événements. La révolte en Iran ou au Soudan, les deux en ce moment, sont des bons exemples de ça en fait. Hein. Les répressions sont filmées et parfois par plusieurs personnes au même endroit. Donc du coup, ça devient difficile hein, pour les régimes de les nier. Parce que effectivement, il arrive un moment où bah, quand vous avez 10 vidéos des gars qui tirent sur la foule qui sont faites dans 10 angles différents par 10 personnes différentes, ça va être dur de dire « Ah, la vidéo, c'est un montage et en fait, c'est derrière, c'est les Américains. » Vous voyez, comme ils disent tout le temps. Non, ça marche plus là. Donc en fait, c'est ça en fait le problème. Et ce n'est pas valable que là, en fait, finalement. On se rappelle tous du meurtre de George Floyd aux USA, ou de la répression violente des Gilets jaunes en France, qui ont pu être finalement connus par l'existence de vidéos multiples postées via Internet et via les réseaux sociaux. Utilisés intelligemment, finalement, ces réseaux, ils permettent en fait de faire émerger des vérités qui étaient plus facilement contrôlables quand tout passait par le papier. Bah oui, évidemment. Bah,
clairement, oui.
C'est là, en fait, ça échappe en réalité à tous les trucs. D'ailleurs, la Chine, hein, qui est un terrible exemple, est en train de créer son propre Internet fermé sur le pays pour éviter en réalité que des informations sortent ou rentrent en Chine et se couper du reste du monde pour garder le contrôle. En fait, la Chine a compris que le meilleur moyen de garder le contrôle, c'est de garder les tuyaux où passent l'information. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, ça marche pas totalement, et tant mieux, parce que encore récemment, on a pu voir, via notamment le réseau social Mastodon, qui est un réseau social décentralisé, des vidéos arrivées des provinces où on a enfermé les gens par la politique zéro Covid complètement folle que fait subir la Chine à sa population. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 145 millions de Chinois sous confinement strict, c'est-à-dire enfermés chez eux, c'est une prison, hein. Et certains, ça fait 2 mois et demi, donc je vous laisse imaginer. Et là, il y a des révoltes, et en fait, la Chine, jusqu'à maintenant, arrivait à cacher les révoltes, sauf que bah, il y a des gens qui, par ces réseaux décentralisés, ont réussi à sortir des images qu'on a pu voir. Et donc, bah, on voit qu'il y a des gens qui renversent les gens en blanc. Vous savez, c'est des gens dont on a très peur parce qu'ils sont des militaires, en réalité. Mais voilà. Donc, l'idée, c'est aussi finalement de s'approprier les réseaux, quelque part. Et pas forcément d'en avoir une espèce de va des rétros satanas, comme tu le disais au début.
Oui, oui, mais en fait, c'est toujours en fait la mesure, en fait. Enfin, alors, c'est bizarre, c'est moi qui dis ça, alors que je suis vraiment pas le plus mesuré, tu vois. Mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire que soit on a ceux qui vont diaboliser. En fait, on est toujours dans ce binarisme à consonance quand même très religieuse, hein, le bien, le mal. Donc il y en a qui vont te dire que c'est le mal absolu, que c'est de la merde, ouais, etc. Ouais. Sans même juger finalement ce qu'on peut y voir. C'est-à-dire que c'est du fait que c'est un outil capitaliste, c'est de la merde. Alors oui.
Je vais revenir dessus.
Ah pardon.
Non, vas-y.
Et de l'autre côté, on va avoir ceux qui adorent les réseaux. On peut parler des influenceurs et tout ça, ouais. Mais ce qui fait que d'un coup, c'est un Eldorado, c'est magnifique. Et qu'en fait, il y a sûrement quelque chose au milieu de tout ça où on peut effectivement l'esprit critique.
Eh ben, tu fais une bonne introduction à ce que j'allais dire, parce qu'on a aujourd'hui une nouvelle génération finalement militante, hein, depuis une dizaine d'années, qui ont très bien compris, elle a très bien compris les enjeux des réseaux et d'Internet. Elle est pas bête, ces jeunes. Ils savent qu'ils sont sur des outils capitalistes, ils savent que derrière Twitter maintenant il y a Elon Musk, que derrière Facebook il y a Zuckerberg, derrière Instagram aussi, que derrière TikTok il y a la Chine. Ils sont conscients de tout ça, il n'y a pas de problème. Cette génération militante, elle est pas conne, elle sait très bien comment ça fonctionne.
Mais oui, mais comme derrière une chaîne de télé il y a du capitalisme,
oui,
comme derrière des journaux, je veux dire, enfin, il y a quand même, comment dire, il y a quand même une nécessité d'avoir un équilibre financier, donc ce qui fait qu'il y a une gestion capitaliste.
Et la nécessité, quand on les utilise, d'avoir un esprit critique.
Mais oui, oui.
Et donc, cette génération, sans être dupe hein, des limites de ces mastodontes qui restent et reposent sur des grosses structures capitalistes, ils ont su simplement compris que l'outil peut aussi être dépassé et parfois aller au-delà de sa fonction première. On se rappelle tous, par exemple, les réseaux comme Facebook, TikTok ou Twitter, Snapchat ou Instagram ont été détournés ou sont détournés pour aider à passer des images, des idées plus vastes que de savoir ce que vous avez mangé la veille ou quel coucher de soleil vous avez regardé. D'ailleurs, l'un des très bons exemples, c'est les Ouïghours qui ont réussi en Chine à se servir de TikTok, qui est quand même une entreprise chinoise, qui est quand même très contrôlé par le PCC, en comprenant comment l'algorithme fonctionnait et en mettant en fin de vidéo, donc en faisant 10 minutes de tourner la vidéo un petit moment, puis à la fin, pouf, il rajoutait un truc. Et depuis, TikTok a dit, ah, vidéo pas plus de 30 secondes, parce que l'algorithme, il n'arrivait plus. Mais pendant des mois, ils ont réussi à passer des informations en fin de vidéo ou de choses comme ça. Et en détournant finalement la fonction et les codes, ils ont su faire de ces outils de pensée, de ces outils pensés pour faire du fric, des outils d'information sur leur situation. Et en fait, c'est une forme de subversion, en réalité. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'on a toute une génération militante aujourd'hui qui a compris comment subvertir des outils. Et quand d'autres, dans les militants, vont les regarder en disant « Mais qu'est-ce que tu fais sur les réseaux ? À quoi ça sert ? Mais pourquoi tu t'en sers ?» machin. Et eux, en fait, ils peuvent vous expliquer ce qu'ils font, en fait. Donc c'est bien de dialoguer. Oui, plutôt que de condamner.
Oui, c'est ça, parce que finalement, celui ou celle qui n'est pas complètement à fond sur les réseaux, il peut aussi amener, justement, par sa position critique,
un esprit critique
à celui ou celle qui va pouvoir, peut-être des fois, un peu se noyer dans les réseaux, à se dire, ah bah si, c'est trop génial, sans avoir, effectivement, la lecture économique, capitaliste,
tout à fait.
Qu'est une machine comme tous ces réseaux dont tu évoques.
Alors, pire, c'est cette génération, hein, c'est plus ou moins jeune, hein, parce qu'il y a quand même des gens qui n'ont pas 20 ans. Hein. Il y en a qui ont un peu plus, elles ont retrouvé ou trouvé les moyens de contourner la censure et les blocages en utilisant parfois des réseaux non capitalistes et décentralisés. Je vous parlais de Mastodon ou de Diaspora, qui sont en fait deux réseaux décentralisés, un qui ressemble un peu à Twitter, l'autre un peu à Facebook, pour faire un peu rapide, mais aussi en fait en maîtrisant l'art du VPN. Mmh. Et oui. Et le VPN pour Virtual Private Network, quand même, voilà, ou on va le dire en français, ça signifie réseau privé virtuel.
C'est dommage parce que je trouvais que ton anglais s'était amélioré depuis 13 ans.
Ouais, c'est pas mal, je prends des cours.
Depuis 9 ans, pardon.
C'est un outil qui permet de cacher qui vous êtes en réalité sur Internet. Ça sert à ça en fait, hein, concrètement. Et ça permet en réalité de se connecter autrement ou à des réseaux qui sont en dehors de votre pays. Ce qui permet en réalité de contourner ou de sauter par-dessus la censure. Voilà, en passant par des serveurs délocalisés. C'est ça l'idée.
On peut par exemple être à Pékin, se connecter via l'Islande ou la France.
Ouais, ou les États-Unis. Voilà.
Et envoyer de l'information sans que maître du pays puisse s'en rendre compte.
C'est ça, et il y a des VPN, ou même pour ne pas qu'on vous retrouve, ils peuvent vous connecter à 12 serveurs différents en passant par un noyau Tor. Et vous voyez, donc ce qui permet en fait de complètement
de perdre,
vous cacher, de vous perdre dans une espèce de jungle, qui fait que même si les autorités chinoises arrivent à remonter un ou deux, je dis chinoise, ça peut être iranienne, soudanaise ou autre, si elles arrivent à remonter à un ou deux échelons, il en reste encore 14, et le temps qu'on remonte jusqu'à vous, vous avez déjà jeté le portable ou changé complètement de mode de vie. Donc voilà. Autrement dit, vous êtes dans un pays, donc ce qu'on disait, et vous pouvez vous connecter à un serveur ailleurs dans le monde, contourner la censure. C'est comme ça en fait que les militants de Hong Kong, rappelez-vous, ont pu passer un maximum d'informations, par exemple au moment où il y a eu la répression chinoise. Alors on va être clair, hein. Bien entendu, c'est pas magique et ça n'évite pas la répression. Par contre, ça permet qu'elle n'existe pas sans qu'on la voit. Mais cela la rend en fait visible, donc du coup, est difficile ensuite de dire « je ne savais pas ». D'ailleurs, vous avez remarqué que le PCC a arrêté de nier ce qu'il faisait les deux premiers jours en disant « non, il n'y a pas de répression violente, non, on n'envoie pas de policiers armés ». Puis bon, au bout de la 20e vidéo avec des tirs à balles réelles tendus sur la foule, bon, en fait, si. Parce que voilà. Mais alors, la Chine, elle tient parce que c'est un régime dictatorial et voilà. Mais il y a des régimes qui ont plus chancelé. C'est-à-dire les Chinois sont très costauds, mais il y a des régimes qui se sont retrouvés, notamment en ce moment, le régime iranien, est très, très emmerdé que les images sortent. Parce que lui qui dit on ne fait pas de répression violente, c'est pas vrai, tout ça c'est inventé par la propagande américaine, quand en fait il y a des images claires de ce qui se passe, le nier devient très compliqué, en fait, vous voyez. Et c'est aussi ça, en fait, que les militants et militantes qui font passer ces informations et ces images cherchent. C'est aussi d'arriver à déstabiliser les régimes qui sont à la cause de leur malheur. Donc il en va de même, hein, en fait, pour les usines et camps où sont enfermés les Ouïghours, par exemple, les camps en Birmanie aussi. Toutes ces images, elles sont sorties via les réseaux sociaux. Alors ça peut paraître idiot à plein de gens. Par contre, ça a permis quand même d'avoir de l'information, qu'on le veuille ou non. Et tout ça, en fait, ça nous arrive donc via les réseaux et via Internet, ces fameux outils où on a un peu du mal parfois à se dire que ça sert à quelque chose. Voilà. Il n'y a pas que d'ailleurs que sur la notion d'information qu'Internet joue hein, quand on regarde bien. Pour moi, en fait, on voit émerger une forme d'internationalisme en acte. C'est ainsi que sur la circulation des idées, on a pu voir que ça s'accélère énormément et qu'il y a des idées qui traversent le monde en quelques jours, là où elles mettaient des années avant à émerger. On l'a vu avec le mouvement MeToo, par exemple. On l'a vu aussi avec les mouvements contre les violences policières. C'est-à-dire que ça s'est mondialisé. C'est-à-dire que d'un seul coup, tout le monde a s'est dit « Non mais attendez, violences policières, c'est pas propre au régime. » Non, il y a aussi regardé aux États-Unis comment ils agissent, regardé en France, regardé machin. Et en fait, ces mouvements-là, ces idées-là, ces dénonciations-là, en fait, elles circulent beaucoup plus vite. Et contrairement à ce qu'on croit, bah, c'est plutôt un effet positif qu'un effet négatif. Certes, certaines de ces idées peuvent ne pas nous plaire, voire nous dégoûter, voire on peut être en train de les combattre. Le complotisme, le racisme, le patriotisme, toutes ces choses-là. Mais il ne faut pas non plus nier que les idées positives, progressistes, circulent aussi. Elles circulent très très vite. En particulier sur le droit des individus d'être eux-mêmes. L'accélération sans précédent des luttes féministes, LGBTQI+, antiracistes et autres sont reliés directement avec l'existence de ces plateformes et d'Internet. C'est parce que les idées traversent très très vite le monde, je le redis. Et en fait, ça permet en fait à certaines idées d'avoir une prégnance sur la planète entière. Je prenais un exemple, parce que je l'ai lu avant de venir et je ne l'avais pas mis dans ma chronique, mais je vais quand même le donner. L'image, vous savez, quand en 1968, il y a deux athlètes qui ont, en Mondovision, deux athlètes noirs qui ont levé le poing, machin et tout.
En fait, c'était au JO.
En fait, cette image, elle, sur notamment le continent africain, elle a mis très longtemps à arriver. Parce que, en fait, il y avait l'apartheid, il y avait encore une partie de colonisation, il y avait des tas de choses comme ça. Donc, en fait, on ne voulait pas que cette image soit vue parce qu'elle était vue comme possible soulèvement. Et en fait, ça a été assez simple parce que la télévision était moins mondialisée qu'aujourd'hui. Et puis surtout, on pouvait encore dire aux chaînes qui étaient locales, tu diffuses pas ça. Mmh. Vous voyez. Et en fait, ça, c'est le cas. La mort de George Floyd, il a fallu, certains experts estiment qu'il a fallu 13 minutes pour qu'elle soit connue dans le monde entier. C'est-à-dire on mesure l'accélération que ça a été. Alors évidemment, ça peut paraître comme ça, on va dire « Ah oui, mais à quoi ça sert ?» En fait, c'est une conscience humaine qui se met en place avec on est aussi choqué de ce qui se passe à 10 000 km de chez nous parce que c'est nos frères et sœurs et qu'il n'y a pas de raison qu'en fait on voit pas ce qui se passe. Voilà. Donc, je voulais donner cet exemple parce que j'ai trouvé très parlant de dire 13 minutes. Voilà. Et encore, les experts disent que c'est à cause du décalage horaire. Parce qu'il y a des pays où il fait nuit quand il fait jour de l'autre côté. Et que, il y a quand même des gens noctambules qui sont sur les, je te balance ça à mon pote, je balance ça à mon pote. 13 minutes. C'est très, très rapide. Donc, comme je le disais aussi récemment, et je vais reprendre le témoignage tel quel, c'est une personne qui habite au Niger qui parle, donc qui dit, moi, je suis du Niger et je suis homosexuel. Quand j'ai vu sur TikTok pour la première fois des hommes assumer leur sexualité, se faire des bisous et des câlins, j'ai su que je n'étais pas un monstre. Ça peut paraître très très bête, mais en fait c'est extrêmement important en fait. Pour nous qui vivons dans des pays dits plutôt de démocratie libérale, on se dit quand même l'accès à l'information. Sauf qu'en fait il y a des endroits dans le monde où en fait l'information est notamment pour les LGBT. Les réseaux ça a accéléré ou aidé à ce qu'ils puissent voir que ils ont le droit d'exister en fait et que c'est pas une tare, c'est pas voilà. Et c'est pas un cas isolé. Il suffit aussi de voir les chansons militantes voyager, être traduites, reprises. Adapté à la situation du pays et des luttes, et c'est un autre exemple très parlant. On parle, beaucoup de gens ont passé notamment la version de Bella Ciao en persan, qui a été là récemment reprise en birman, qui a été aussi reprise en mandarin pour être chantée à Hong Kong. Donc on voit qu'il y a cette chanson de voyage. Alors c'est plus exactement les mêmes paroles, c'est l'air qui reste, mais on voit que il y a une sorte d'internationalisation de la chanson de lutte, quoi. Et c'est pas si dégueulasse.
Ouais, une forme d'universalité qui se crée par.
Ouais.
En fait, on se voit, on se rend compte que finalement nos vies sont-elles si différentes que ça ?
Pas tant que ça.
C'est-à-dire, alors évidemment, il y a les degrés de répression, etc. Je suis pas en train de mettre à égalité.
Mais d'ailleurs, les militants ne le font pas non plus.
Mais oui.
C'est pas le but. Hein.
Mais par contre, on se rend compte d'un coup, il y a une sorte d'effet miroir, en fait. Celui qui est de l'autre côté ou celle qui est de l'autre côté du globe, en fait, elle vit des trucs qui peuvent être vécus ici aussi, en fait. Et d'un coup, il y a peut-être aussi. Cet effet miroir qui est un peu plus.
Mais ça remet au goût du jour une phrase très célèbre qui était tout ce qui est humain est nôtre. Mmh. C'est-à-dire, c'est l'idée que on se connecte parce qu'on est humain, avant tout. Et pas parce qu'on est français, parce qu'on est ceci, parce qu'on est humain. Donc, au fond, en fait, on assiste, sans s'en rendre vraiment compte, à l'émergence d'une d'un vrai internationalisme qui ne dit pas son nom, parce qu'il n'est pas fait selon les critères écrits dans des livres que l'on a sur des étagères, mais en tout cas, il commence à exister. Et c'est un internationalisme des idées, c'est dur à dire ça, de l'échange et du partage, et qui passe finalement par un support que nous avons, c'est Internet, pour ce qui est du milieu militant, est largement sous-estimé dans le milieu militant. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à ne pas voir que... Alors surtout en Europe et aux États-Unis, c'est ça qui est paradoxal, parce que quand vous discutez avec des militants qui viennent d'autres coins du monde, eux, ils ont bien compris souvent l'utilité de passer aussi par Internet, parce que c'est un moyen aussi de balancer ce qui se passe et d'être quasiment sûr que ça arrive, quoi. Et bah, c'est quelqu'un qui va tomber dessus, quoi.
Ouais, et puis si t'es dans un pays où les gens qui peuvent potentiellement penser comme toi n'ont pas leur journal, leur maison d'édition, oui, ça, ouais. Et ben t'es un peu dans la merde pour faire entendre ta voix, quoi.
Pas grand chose
donc autre. En fait, c'est aussi ça, et que même en même temps, tu te dis, tiens, est-ce que le fait qu'on ait un peu du mal, on va dire, dans les pays plus riches, à avoir ce côté plutôt positif que peut avoir les réseaux ou Internet, est-ce que c'est pas aussi, ça vient pas aussi un peu interroger la position de pouvoir finalement, ouais, qu'on pouvait avoir,
ou une légère pédanterie aussi,
ou une pédanterie, mais mais même dans la pédanterie finalement, il y a une forme de position de pouvoir, quoi. C'est-à-dire que nous on sait, tu vois, c'est parce que nos idées, alors qu'en fait les idées appartiennent à l'humanité et pas à un coin du globe.
Ah, c'est clair,
ouais. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi de ça, tiens, enfin je me dis, oui, c'est pas possible,
c'est fort possible, ouais. Et en fait non, hein, contrairement à ce que je peux entendre et lire, Internet n'est pas le lieu des égos, du moins pas plus que n'importe quel congrès de n'importe quel collectif au fond.
Ah oui, voilà. N'importe quelle réunion de n'importe quelle réunion. Je veux dire, on peut aussi être confronté à des éclats d'ego dans des réunions plus basiques.
Je veux dire, c'est pas, il faut arrêter de. Enfin, je trouve qu'on a surstigmatisé en réalité, et surtout on prend les plus jeunes, parce que c'est souvent souvent il y a un agisme derrière tout
mais
ça.
En fait, il y a ça.
On prend les plus jeunes pour des idiots en disant ah là là, mais ils ont rien compris. Alors que souvent, quand vous discutez avec eux, et moi ça m'arrive de le faire, et c'est plutôt cool, ils vous expliquent qu'ils ont compris. Ils ont compris comment ça fonctionnait. Alors oui, il y a une partie qui veulent devenir influenceurs,
oui,
mais comme il y a des gens qui voulaient devenir footballeurs, ou comme il y a des gens qui voulaient devenir acteurs, je veux dire, ça fait partie d'une minorité de gens qui ont envie de faire un métier qui est parfois étrange, mais qui, voilà. Mais par contre, il y en a plein qui ont compris tout à fait à quoi ça pouvait servir, comment on peut passer de l'information, comment on peut s'organiser. Moi, je vous invite, par exemple, à discuter avec, si vous avez des enfants qui sont au collège ou au lycée, allez discuter avec eux sur comment les blocages de collège et de lycée se sont mis en place ces derniers temps. Ben, vous verrez que vous allez découvrir que leur portable, ça leur sert pas juste à faire du Snapchat. Ça sert aussi à s'organiser, et qu'ils le font très très bien.
Mais oui, et voilà. En même temps, tu retombes sur ces conflits de génération,
ouais,
à quelque part, parce que je pense que, je sais pas, en 68, alors je prends cet exemple-là, mais on pourrait en trouver plein d'autres, hein, je veux dire.
Ben, en 68, les leaders syndicaux dénonçait
la folie de la jeunesse, quoi. Et tu dis, bah en fait, voilà, les choses évoluent, changent, des fois bousculent, et donc d'un coup, il faut, plutôt que de se dire, tiens, c'est quoi l'idée qui est avancée, c'est quoi le propos qui est avancé, c'est quoi. Non, on bloque, quoi, parce que, oh là là, ils viennent nous faire.
Nous bousculer.
Ouais, nous bousculer, ouais. Oui.
C'est comme le hockey boomer,
oui,
qui était extrêmement provocateur et qui est très très désagréable pour les boomers dont je fais partie.
Non mais
qui était aussi en fait en réalité une façon de secouer, c'est-à-dire de dire non mais vous êtes bien gentils, mais vous comprenez pas ce qu'on vit. Et c'est peut-être un excès, évidemment.
Oui,
mais c'est aussi un excès qui naît de l'excès inverse.
Ah mais parce que
rejet de l'autre côté.
Si on vient te dire, ah, bah, vous les jeunes, vous avez rien compris, bah, tu vas répondre forcément à l'autre.
Ok, boomer.
Mais ouais, vieux con, t'as raison. Toi, tu sais tout, en fait.
C'est ça.
Donc finalement, oui, sauf que dans les deux cas, c'est pas une réponse qui fait vraiment avancer, puis c'est une grosse généralité, mais c'est pas grave.
Non, mais je dis ça parce que les médias ont beaucoup focalisé sur ce hockey boomer, on en a dû énormément parler, mais souvent parce que les médias sont eux-mêmes tenus par des gens qui sont pas jeunes, et puis du coup.
Et qui sont bousculés aussi.
Ouais, et qui étaient bousculés. Et puis surtout, ça remettait leur rôle en place, leur place en. Non. Leur rôle en
qui remettait leur place en question.
En question, voilà. Ces rôles n'avaient rien à faire dans cette phrase. Pardon. Donc, ils mettaient leur place en question parce que finalement.
Tu vas prendre une petite tisane.
Non, mais pardon, mais parce que finalement, il y a plein de médias qui se sont retrouvés parfois dépassés.
Mais bien sûr, c'est
ça. C'est-à-dire que l'information arrivait avant.
Ça les a bousculés parce que d'un coup, c'était eux qui avaient normalement, on va dire, le monopole de l'information. Et d'un coup, en fait. Ben ouais, ils se font dépasser par des trucs qu'ils n'ont pas vu venir, qu'ils étaient du mépris, et qu'en même temps, on le rappelle, ça reste tout ça.
Ça reste critiquable,
des capitalistes et de merde ou autre.
Mais si on est capable de faire de la critique des médias, on est capable de faire de la critique des réseaux, on est capable de faire de la critique d'Internet. Il faut arrêter, c'est pas des outils qui sont en dehors de la critique. Simplement, il faut aussi reconnaître les bons côtés ou les aspects positifs, et notamment d'une génération militante émergente aujourd'hui qui se sert énormément d'Internet comme étant un outil de transfert, en fait, d'informations, de données, d'idées, et que bah, il faut aussi prendre ça en compte.
Oui. Voilà. Après, la seule réflexion que je me fais peut-être comme ça, c'est voir aussi sur la durée.
Oui.
C'est-à-dire qu'on ait des liens qui se créent, ou en tout cas des retweets, pour rester dans, dans la thématique de ce sujet. Oui, c'est très
partages,
bien. C'est du partage, etc. Ouais. C'est très bien, mais c'est... Il faut aussi voir sur la continuité, sur la durée, qu'on ne soit pas aussi justement dans l'instantanéité que nous vendent ces réseaux, pour vraiment être dans une création de liens et de réseaux pour consolider tout ça. Quoi.
Pour ça, il faut observer ce qui se passe autour notamment de ce qui se passe aujourd'hui en Iran, de la guerre en Ukraine. Il y a énormément de gens qui suivent à travers des comptes individuels ce qui se passe, parce qu'en fait, ils ont créé un lien et finalement, ils remontent de l'information. Et d'ailleurs, j'ai vu une émission, pardon, j'ai regardé la télé, c'est mal.
Mais
j'ai vu une émission il n'y a pas très longtemps, je crois que ça s'appelle C'est ce soir, qui est une émission sur France 5, qui était sur l'Iran et qui était très intéressante, parce qu'il y a des gens qui disaient, en fait, qui étaient pour la plupart avaient autour de 50 ans, et qui disaient qu'en fait aujourd'hui ils demandaient à leurs enfants ou à leurs neveux et nièces, parce qu'ils avaient de l'information que eux n'arrivaient pas à avoir. Et il y avait des journalistes dans le lot qui disaient, en fait, ben ouais, parce que ben oui, c'est instantané, mais ça fait du lien, et aussi à nous, après, de construire du récit. C'est-à-dire d'aller creuser, d'expliquer. Ça n'empêche pas le travail qu'il y a derrière. C'est juste qu'en fait, ben, ça permet quand même de sortir l'information, et c'est hyper important. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir des gens dont c'est le métier, qui étaient pour certains journalistes, d'autres qui étaient chercheurs, qui disaient, ben en fait, nous, on n'est plus de cette génération-là, donc on est allé demander à des plus jeunes, parce que eux, ils ont des habitudes, et parce que eux, et voilà, il y en a même une sur le plateau qui disait un truc qui m'a fait sourire, qui disait, c'est ma fille qui m'a alerté qu'il y avait une révolution en Iran. Et j'ai trouvé ça très marrant, parce que sa fille est iranienne, donc de fait, parce que c'était une personne qui est réfugiée politique, et elle dit, ben, un matin, ma fille me dit, mais t'es pas au courant, il y a une révolution en Iran, et qu'elle n'est pas encore au courant, alors que sa fille a déjà toutes les premières manifs, elle les avait déjà sur ses réseaux, et donc elle savait ce qui se passait. Donc ça paraît peut-être étonnant comme ça, mais sauf que c'est très honnête de le reconnaître. Voilà. Je termine donc sur le fait que on a déjà parlé dans l'émission du fait qu'il faut être présent partout. Hein. Nous, on a toujours dit que si on faisait de la radio, c'est parce qu'il faut pas laisser la radio qu'à RTL et compagnie, par exemple, y compris là où en fait on nous attend pas. Donc peut-être que là aussi, on a des choses à aller apprendre sur la subversion. Il y a une jeunesse militante qui nous montre une voie qui certes peut être critiquée sur certains aspects, mais qui a le mérite d'ouvrir des canaux là où les publications ou les écrits militants tendent à se perdre et à n'être plus lus finalement que par des convaincus. Donc peut-être que là il y a quelque chose à saisir, quelque chose à prendre. Peut-être qu'il va falloir qu'on apprenne à faire de la vidéo aussi, par exemple. Peut-être qu'il va falloir qu'on apprenne à être plus moderne dans notre forme et dans notre façon d'être. Internet et les réseaux sociaux ont profondément modifié le rapport à l'engagement et au partage. Je te rejoins sur l'immédiateté, tout ça, et là il n'y a pas de problème. Les idées voyagent plus vite, plus certainement qu'avant, et entraîne sans doute parfois des dérapages, mais ça ouvre sans aucun doute des espoirs et des luttes là où nous les pensions impossibles. Je renvoie à l'émission qu'on a fait sur l'Iran, où Roya nous disait moi je croyais que les jeunes étaient tous le nez dans les réseaux sociaux et qu'ils se révolteraient pas. Ben voilà, parce qu'on des fois on pense impossible les choses et puis finalement ça arrive.
Mais oui, et puis on parle d'où on est chacun et chacune.
Tout à fait,
aussi,
exactement. Cette jeunesse que l'on pense perdue et scotchée aux réseaux sociaux a su
et qui n'a aucun idéal.
Voilà, a su quand même nous démontrer au travers de sa capacité à monter des initiatives internationales, parce que quand même quand on regarde le climat, les luttes LGBT, les luttes féministes, c'est pas mal quand même en termes d'initiatives internationales, c'est pas mauvais, qu'elle était loin d'être aussi dépolitisée que certains l'espéraient, parce que je pense qu'il y avait un espoir dans la tête de certains, ou que certains le croyaient. Bien entendu, Internet, comme le reste de la société, n'est pas protégé d'une vague réactionnaire ou autre, mais pas plus que les livres, pas plus que la presse, pas plus que la télé, la radio, ou ce que vous voulez. Mais encore une fois, ce n'est qu'un outil, à nous de le faire vivre et de l'utiliser correctement. Voilà.
Et ben voilà, je crois qu'on a assez débattu de tout ça.
Mais
non, mais je ne veux pas rebondir encore une fois.
Non, mais en tout cas...
J'ai suffisamment...
Bah, tape pas dans le micro. Non, mais en fait, voilà, moi, je voulais faire cette chronique parce que je m'interroge, mais même moi, alors je veux pas le cacher, je le dis souvent à l'antenne, j'ai 45 ans, j'ai pas d'enfant, et personnellement, en fait, bah, des fois, je me sens peut-être en décalage avec certains jeunes militants qui sont plus habitués que moi à faire certaines choses, à mettre en place des trucs, enfin à ouvrir des Discord, à ouvrir des WhatsApp, à ouvrir des signals, à ouvrir des trucs comme ça, à se coordonner, et voilà. Et en fait, j'ai pu constater dans ma vie militante l'efficacité de ces outils et vraiment à quel point utiliser intelligemment, c'est efficace. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre et que c'est bien, en fait, de, comme tu disais, de confronter entre les petits vieux militants et les petits jeunes.
Oui, et puis en même temps, pardon, j'ai dit que je rebondissais pas, mais non, parce qu'il a parlé d'utilité. Et là, l'utilitarisme, ça s'interroge aussi dans la militance. La fin, les moyens, le comment
oui,
on y
oui,
arrive, ça s'interroge aussi, en fait, je trouvais. Mais voilà, c'était juste pour faire chier un petit peu aussi, quoi.
Oui. Bah, disons, je vais le dire autrement, disons que quand, à une époque, tu tractais des tracts papier et que tu emmenais 20 personnes dans une manif et que tu te rends compte que quand tu fais la même chose, mais que tu utilises en même temps les outils comme WhatsApp, comme truc, oui, non, mais... et bah, qu'en fait, tu te retrouves à 150 ou 200 personnes qui arrivent, et bah, tu vois qu'il y a quand même quelque chose qui fonctionne. Et que tu te dis, et que dans les gens qui arrivent, il y a majoritairement des jeunes, et tu te dis, ah ben en fait, il y a un truc qui fonctionne, et en plus, ça fonctionne plutôt bien. Et c'est là qu'il faut s'interroger, à se dire, bah peut-être que là, il y a des choses à apprendre. C'est dans ce sens-là que je vous disais.
Bien sûr, voilà. Le partage intergénérationnel.
Exactement.
Et allez, on passe à la musique. Musique. La diva, tu vois ma vida loca, loca.
Sans rendez-vous, moi je suis pas ta patte. T'as installé ta base comme un Amerloc. Moi je suis iPhone sans coque, je résiste pas au choc. Toc toc, t'as cassé la porte. Tout tu chantes sous ma douche, je voulais pas de coloc. T'as envahi ma bouche, de tous tes médocs. Je me vois me consumer comme un paquet de clopes. Tic toc, toujours pas en clope. Cougar cajole, je suis un délit choc. Sugar congèle, femme de mon époque. L'idée me fait suer jusque dans mon froc. Bad locks. Dis-moi qui débloque, dis-moi que je développe dans mon lit une haine réciproque envers cette salerie. Tu te moques de mes rêves de gosse.
Causerie au 102.2 sur radiocanu.org et vous venez d'entendre une artiste que j'adore qui s'appelle Thérèse et qui chantait Maladiva, donc une chanson sur sa maladie et sur cette maladie qui peut rendre fou et qui s'invite dans vos vies et qui veut pas en partir. c'est un peu emmerdant quand même. Mais voilà, c'est fait avec son style que j'aime beaucoup. Et je vous invite vraiment à suivre cet artiste qui s'appelle donc Thérèse. Et si vous écoutez les bandes continues, vous avez déjà entendu Chinoise, qui est aussi un de ses superbes morceaux.
Et qu'on avait passé dans l'émission, si je me trompe.
Oui,
pas.
Il me semble aussi, voilà. Et donc toi, Jean-Yves, tu vas nous parler maintenant d'une BD.
Tout à fait.
Et c'est une BD vachement sympa. On parle pas le thème, mais la BD jolie.
Vous ferez votre avis. Ce soir, donc, je vais vous parler de la BD Pour une couleur de peau, sortie chez Harmattan BD en août 2019. Alors, elle est l'œuvre d'Edimo, aka Christophe Ngal Edimo, franco-camerounais, hein, ayant vécu au Cameroun jusqu'à ses 24 ans. Il est le cofondateur de l'association L'Afrique Dessinée. Il est scénariste BD et a plusieurs titres à son actif, dont Mamie Denis, évadée de la maison de retraite, avec Hajim Dangar, sorti en 2017. Si je me souviens bien, c'est une histoire d'une vieille parisienne un peu raciste, un peu tout ça, qui décide de se barrer de son EHPAD et qui va vivre en Afrique, je crois. Donc voilà, donc je pense que c'est une confrontation réelle. Voilà. Alors au dessin de Pour une couleur de peau, nous avons droit à trois dessinateurs, dont chacun fera une des trois périodes exposées de la vie des personnages principaux de la BD. Alors il y a Martini Ngola, camerounais. En 2017, il intègre le groupe Black Trek, où il fait sa toute première collaboration BD sur le projet Illastine. Et en 2019, hein, ça marque sa première signature internationale, donc avec l'album, enfin la BD que je vous présente ce soir, Pour une couleur de peau. Et entre 2020 et 2021, il ajoute à son CV deux nouveaux albums, dont Le Mpou, en 2020 chez Félez Éditions, et L'Escale des Mille Pintades, un autre album collectif en 2021 chez Toom Comics.
Ça donne envie de voir ce que c'est. Ouais.
Alors, il est en 2021 aussi l'auteur à l'honneur du Mbao BD Festival, qui est en fait le festival international de la BD en fait au Cameroun. Autre dessinateur, Nyambi Joseph Dany, camerounais également, ayant fait l'Institut des Beaux-Arts de Ngongzamba au Cameroun, excusez-moi pour les prononciations, et en plus de Pour une couleur de peau, il a aussi participé lui aussi à l'Escale des Mille Pintades en 2021.
Il faut vraiment qu'on aille voir ce que c'est.
Le titre m'intrigue beaucoup. Et enfin, on termine avec le troisième dessinateur, Nathanael Ejob. Alors lui, il est écrivain, dessinateur de bande dessinée, évidemment, artiste d'animation, débutant et fondateur de Zebra Comics, qui est en fait une maison d'édition de bande dessinée au Cameroun. Alors, si vous allez sur le site de la boîte d'édition, c'est assez axé, moi j'ai l'impression, comics sauce africaine. Donc voilà. Alors, il a publié deux romans, hein, The Dead Daughters et Queen of a Lie. Il a également créé et travaillé sur plusieurs titres de bande dessinée pour Zebra Comics, ainsi que pour d'autres éditeurs. Bon, allez, j'en arrive enfin à la BD, il serait temps. Cette BD nous conte l'histoire de Chantal, femme camerounaise, pardon, qui met au monde Agnès, une enfant albinos. Albinos, ou plutôt personne vivant avec l'albinisme, comme le disent en fait les personnes qui sont atteintes d'albinisme en fait. Parce que pour eux, albinos en fait c'est assez réducteur et péjoratif.
Ouais, puis ça sonne un peu comme les lapins. Ouais. Ce qu'on disait, les lapins albinos,
c'est vrai. Et ces deux-là, en fait, vont subir la violence, le rejet de leur famille, de la société, d'une partie de la société du moins, parce que Agnès est donc albinos. Elles connaîtront l'abandon, hein, de parents, de grands-parents, de l'amoureux, du père, et elles devront donc supporter, hein, la haine, la bêtise et l'ignorance, et qui, nouvelle démonstration, vont souvent de pair en fait. Hein, c'est
la bêtise et l'ignorance.
La bêtise, l'ignorance et la haine. Il y a un truc, c'est un peu un triptyque gagnant quoi. Alors comme je le disais, hein, l'album en fait est fait de trois chapitres qui évoquent une période de nos héroïnes, avec chaque fois un dessinateur différent et donc des dessins très différents. Ça peut un peu, enfin c'est bien de le savoir je trouve avant, parce que sinon,
ça peut déstabiliser.
Ouais, ça peut déstabiliser quand même. Et perso, moi j'ai vraiment un faible pour le premier trait. On a l'impression de voir les coups de crayon ou de pastel, ou je sais pas ce qui a été utilisé, mais il y a vraiment j'aime beaucoup, c'est beaucoup plus artisanal quoi. Les autres, on a l'impression vraiment qu'on est plus face à de la palette graphique, etc. Pardon, je m'étais perdu. Donc bref, trois épisodes, hein, la naissance et la petite enfance. La deuxième période, c'est l'adolescence et enfin l'âge adulte d'Agnès et on va dire la vieillesse de Chantal, sa mère. Et à chaque fois, elles subiront de nouvelles formes de violence, de discrimination, ce qui explique évidemment là aussi une surprotection de la part de la mère de Chantal, qui peut des fois créer aussi des malentendus, des tensions en interne, on va dire. Alors entre patriarcat et croyance, hein, parce que bien sûr, c'est la mère qui transmet le gène défectueux pour certains qu'on retrouve dans cette BD. Et comme ils le disent, même la Bible et le Coran le disent. Alors forcément, j'ai envie de vous dire, c'est vrai, parce qu'on le sait quand même. Hein. Et si c'est pas une histoire de gène, c'est une malédiction. Malédiction qui vient évidemment de...
la mère.
Voilà, c'est bien, vous avez compris les tenants d'une société patriarcale. Alors, ajoutez hein, la pauvreté, rejet, et vous comprendrez aussi le fait de devoir partir à la campagne, s'exiler, on va dire un petit peu, en tout cas aller auprès de personnes qui peuvent t'aider et te soutenir en fait, et c'est ce qui va se passer. Et en grandissant, les projections, les préjugés évoluent aussi. C'est assez intéressant à observer parce que oui. Donc maintenant adolescente, en fait, hein, Agnès, qui n'est aux yeux de beaucoup qu'une albinos, hein, devient aussi un objet sexuel. Forcément, selon les croyances de certains, parce que coucher avec une personne vivant avec l'albinisme guérirait du VIH. Mmh. Ouais, c'est juste, ça démontre le niveau des croyances, voilà. Et de l'ignorance et de tout ce que je disais avant, quoi. Mais la vie d'Agnès, c'est aussi ses résultats en athlétisme qui la propulse un peu dans une bulle, en tout cas hors de la haine, des préjugés, etc., qui la laisse en tout cas être ce qu'elle est dans son entièreté, dans son individualité, quoi. Même si certains lui diront, non mais attends, tu peux pas nous dire que le milieu sportif c'est pas raciste, on voit bien des gens dans les tribunes, elle dit ouais. Dans les tribunes, oui, mais entre sportifs et sportives, il y a moins ça. En tout cas, il y aurait moins ça. Donc, enfin, le dernier chapitre, pardon, je reviens à ça, nous amène à voir nos personnages, donc, comme je le disais, à l'âge adulte. Chantal, la mère enfin aimée, et Agnès qui fera de son albinisme en fait une force et qui militera pour la défense, le respect des personnes vivant avec l'albinisme en fait. Donc c'est une BD hein, qui nous plonge donc dans la vie d'une personne vivant avec l'albinisme et qui nous fait toucher du doigt hein, justement toutes ces violences, les préjugés, les croyances auxquelles celle-ci doit faire face et dont elles sont victimes. Alors évidemment hein, d'où je suis moi, blanc, vivant en France, vivre avec l'albinisme en fait me semblait pas être un problème ou le fruit du diable, mais en fait il est une toute autre réalité sur le continent africain, du moins une partie de celui-ci, là encore hein, pas de grands ensembles, etc.
Surtout dans la partie subsaharienne, je crois.
Ouais, c'est ça. Et en fait, enfin, on en parlait un petit peu avant de préparer, c'est un peu comme, enfin, parallèle, attention, qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est comme l'excision en fait. C'est pas toute l'Afrique, ça touche le globe total, juste que c'est des parties, des endroits où c'est plus le cas qu'ailleurs en fait, quoi. Donc, parce que là, oui, encore une fois, hein, en fait, l'albinisme, en fait, ça touche tout le monde en fait, ça peut toucher tout le monde.
Oui, parce que les gens le savent pas, mais vous pouvez tout à fait être européen, blanc, et atteint d'albinisme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas réservé aux Noirs. Parce que c'est des fois, il y a des gens qui disent ça aussi en Europe, qui disent il faut être noir pour être albinos, comme on dit, mais atteint d'albinisme. Mmh. En fait, non. Il y a des personnes blanches qui naissent atteintes d'albinisme. Et en fait, c'est juste que ça se voit moins. Je me déguillemets à ce que je dis. Mais ça, c'est vrai, en fait, dans les faits. Ça se voit moins. Surtout si vous êtes, par exemple, dans les pays nordiques, où les gens sont blonds beaucoup, du coup, ça passe plus inaperçu que quand vous êtes atteint d'albinisme au milieu d'une région où les gens sont particulièrement noirs de peau, par exemple.
Alors, j'espère que cette BD hein, vous amènera, vous aussi, à pousser un peu plus loin, en fait, les recherches sur l'albinisme, en fait, et le sort que certains réservent aux personnes vivant avec, parce que je trouve que c'est... Enfin, il y a vraiment ce côté pédagogique, en fait, de cette BD, je trouve. Enfin, vraiment, c'est un truc qui te saute un peu aux yeux. Alors, effectivement, c'est peut-être parce que j'y suis moins confronté, donc, de fait, d'un coup, ça m'apprend plus, en fait, sur une réalité. Donc... parce que si pour Agnès en fait hein, ça s'est pas terminé par la mort, en fait il faut quand même avoir à l'esprit qu'encore aujourd'hui hein, en 2022, des milliers de personnes, je dis bien des milliers hein, de personnes sont en danger simplement parce que vivant avec l'albinisme en fait. Donc certaines hein, sont mutilées, d'autres sont assassinées pour des croyances, de la sorcellerie. Alors, j'avais quand même envie de donner un exemple qui n'est pas dans la BD, mais c'était toujours cette notion. Enfin, souvent les livres qu'on présente ici, il y a une sorte de
élargissez.
On peut chercher derrière un petit peu plus, quoi. Donc, un exemple qu'on trouve pas dans la BD, mais qui en dit long justement sur la réalité, c'est que certains en fait font des potions qu'on peut dire magiques avec des organes de personnes vivant avec l'albinisme en fait, et qui soi-disant ces potions aideraient dans la vie, dans les affaires, dans la réussite. Donc tu dis ouais, c'est complètement ouf, parce que quand même on le rappelle, en fait l'albinisme en fait ce n'est qu'une une variation ou une maladie génétique héréditaire en fait caractérisée par une production insuffisante de mélanine qui se traduit par une pigmentation faible au niveau ou nulle au niveau de la peau, des yeux et des cheveux en fait.
Ouais, c'est un ou deux gènes feignants comme on dit.
C'est tout en fait.
Pas ce qu'ils devraient faire.
Alors il faut savoir, c'est aussi pareil, enfin c'est un petit supplément que je vous mets quand même, hein, je vous le fais pas payer. mais c'est que en fait, c'est intéressant aussi justement cette notion de c'est présent partout en fait, l'albinisme en fait. Alors même si évidemment il y a des variations, mais par exemple dans les populations d'Europe et d'Amérique du Nord, on serait à une personne sur 17 000 ou 20 000 environ, quoi. Et un chiffre en fait qui peut être beaucoup plus, enfin bien plus faible ou plus important, hein, c'est en Afrique subsaharienne en fait. Où ça se situerait plutôt sur une personne sur 5000, même si je suis aussi allé voir un site d'une asso de soutien aux personnes
atteintes d'albinisme,
en fait, on serait presque plus à une personne sur 1400. Mmh. Donc ça fait beaucoup de monde en fait.
Et je crois que pour l'albinisme en Europe, il y a aussi un phénomène, c'est que comme ça se voit moins, c'est moins comptabilisé. Non mais vraiment je sais plus quand, mais j'avais lu un truc, c'est il y a deux maladies comme ça où, parce que entre guillemets elles se voient moins, on les a moins pris en compte dans les calculs, dans les choses comme ça, alors qu'en fait elles sont des fois plus récurrentes que ce qu'on imagine. Mais comme parce que l'albinisme c'est pas il y a différents degrés, donc il y a des gens qui ça se voit un peu moins en Europe, hein, je parle bien sûr, enfin surtout s'ils sont blancs, parce que ça peut pas dire grand-chose en Europe, on peut ne pas être blanc et être européen, mais pour les personnes de peau blanche en fait, et le degré d'albinisme c'est pas forcément très élevé, ce qui fait que on se dit ah bah tiens c'est marrant, elle a une drôle de couleur de cheveux, vous voyez, c'est un truc, mais ça s'arrête là, alors que effectivement sur le continent où il y a une plus grande majorité de gens qui ont la peau colorée par rapport au blanc, enfin je sais pas comment dire, mais c'est pas la peau colorée, c'est rien du tout, noir ou voilà, et en fait ça se voit plus, c'est-à-dire à la naissance, et du coup on a tendance à plus les répertorier, parce que finalement, ça fait partie des maladies où on se dit, il n'y a pas forcément une tare génétique locale. Vous savez ce que ça peut être en réalité simplement une façon de relever les choses qui peut différer.
Voilà. Ouais.
Mais en tout cas, ça touche énormément de monde. Que ce soit une sur 17 000 ou une sur 5 000, ça fait énormément de monde.
Oui, ouais. Et qui ne mérite pas de mourir.
Non, mais dans le sens où c'est
vraiment
pas
le cœur du truc, quoi.
Et en plus, c'est même pas grave. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler que c'est embêtant pour les personnes
concernées. Oui, pour les personnes concernées, oui, parce que
au soleil,
fragilité face au soleil, souvent une vue problématique, mais en soi.
Et les risques de cancer de la peau aussi.
Oui, mais en soi, ça les empêche pas de vivre, quoi. C'est juste, faut prendre des précautions et avoir peut-être un suivi peut-être plus important, mais en soi c'est pas une raison en fait,
mais non, clairement,
pour les tuer, les agresser, etc., quoi. Bref, enfin je vous invite vraiment à lire pour une couleur de peau. Alors je le refais: Dedimo, Matiningola, Joseph Dani Nyambi et Nathanael et Job, aux éditions L'Armatan BD. Et évidemment je vous invite aussi à pousser plus loin votre curiosité sur le sujet, et je partagerai avec mes compagnons d'émission s'ils sont ok, mais j'ai trouvé un petit récapitulatif en fait venant d'une asso canadienne qui en fait prend justement ces préjugés, c'est-à-dire faire l'amour avec une personne atteinte d'albinisme vous guérit du VIH, et qui ensuite en dessous donne juste une explication en disant non, en fait, on n'a jamais vu. Et plein de points comme ça, en fait. Et je trouve que c'est intéressant aussi parce que ça démontre aussi le degré des croyances et le niveau des croyances, en fait. Et que là, encore une fois, c'est la connaissance, le débat qui. Et la remise en question aussi, hein, des préjugés, des traditions, de trucs à la con, pour faire évoluer les choses, quoi. Donc voilà. Enfin, donc je vous invite à le lire pour une couleur, pour une couleur de peau.
Moi, je veux juste dire une chose, c'est que cette BD, alors on l'avait trouvée à Angoulême dans une super expo où il y avait une expo sur la BD, africaine. Et là, le Covid, il s'arrête, et donc il y a des festivals à Lyon, Lyon Festival, BD Festival. Ça serait bien en fait aussi que de temps en temps, on pense à inviter des autrices et des auteurs, il y en a, mais peut-être les mettre plus en avant, parce que aujourd'hui l'Asie, l'Afrique, et surtout beaucoup l'Afrique, c'est quand même 800 millions d'habitants, hein, il y a une énorme création BD, voilà, et qu'on connaît pas parce qu'on ne l'amène pas à nous, et ce serait bien parfois de faire des ponts, parce que franchement il y a vraiment des superbes créations, quoi.
Alors il y a on l'amène, si vient, y a, hein, on l'amène pas, mais il y a aussi le fait que sur place les structures sont pas forcément en place, enfin, ouais, c'est mais oui, mais après il y a aussi beaucoup qui s'éditent en numérique, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que vous pouvez avoir accès à des mangas ou des BD du continent africain sous version numérique, en, ouais, fait. C'est aussi donc, une adaptation.
Tu veux dire qu'il faut être curieux et fouiller.
Ouais, c'est ça, aller sur le mal qui est Internet. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, on croit pas en Dieu et tout ça, donc le mal n'existe pas vraiment. On se passe une musique et on revient tout de suite après.
Comme si on avait laissé notre vision dans nos rêves aveuglés par un quotidien terne. Comme si l'espoir s'était enfui avec la brillance de nos pupilles en traçant des rides et des cernes. Sur le sentier de notre épiderme facial, sommes-nous en bon terme avec la vie? Telle est la question. Sommes-nous devenus des cadavres aveugles, avides, ambulants qui répètent incessamment la même mécanique? Pourquoi ce qui nous entoure ne nous interpelle plus? L'innocence et la naïveté qui déambulent en haillons pieds nus dans la rue ne choquent plus. Certains du bout des lèvres diront: Dieu n'est pas petit et l'homme n'est pas grand. C'est depuis tout petit que l'enfant doit apprendre que la vie n'est pas une maison dans laquelle on grandit. Oh. Comment oses-tu me dire cela au volant de ta grosse caisse polluante? Qu'est-ce qui est plus important, l'environnement ou un semblant de statut? La poubelle de l'Occident devenue ici précieux joyau, des gens joyeux de marcher sur leur crachat, des trottoirs et des routes reflets d'esprit sale, et pourtant c'est visible partout que le feu des frustrations brûle lentement notre pays, pendant que certains restent des assidus disciples du marquis de Sade. Tout tourne autour de l'entrejambe. Comment le développer? Comment la resserrer? Comment plus durer? Comment tout le temps mouiller? Partout, de nouveaux agrégés du sexe nous proposent des solutions miracles. Mais tous ces enfants qui sont nôtres sont aussi notre miroir. Ils répètent chacun de nos mouvements et de nos erreurs avec une ardeur et une fougue propres à leur âge. Avec très tôt cette rage de prendre l'ascenseur social coûte que coûte, quitter le rang des victimes et rejoindre celui de l'accusé. Le plus important, ce n'est pas ce qu'on a, mais ce qu'on montre. Le pouvoir de l'apparence et de l'appartenance. Mourir victime ou devenir accusé. Beaucoup grandissent avec l'idée de cette dualité et ce n'est pas de leur faute si la place du juste n'a aucune visibilité, encore moins dans nos programmes télévisés. Le feu des frustrations brûle petit à petit le pays. Tous ces grains de riz en train de cuire dans la cocotte minute Teranga. Petit à petit, le roussi commence à se sentir fortement, mais l'odeur nauséabonde des canons est tellement présente que plus personne ne s'en préoccupe. De plus, comment parler de justice à des gens ignorant cette langue?
Et vous êtes toujours à l'écoute de La Causerie, bien évidemment, comme tous les dimanches, de 22h à 23h sur l'antenne de Radio Canu. Et on vient de s'écouter Aveugle, le tout nouveau titre de Samira Fall, qui devrait être un peu l'annonce d'un prochain album. C'est une slameuse poétesse sénégalaise dont on a déjà passé quelques titres aussi dans La Causerie.
Et c'était vachement bien.
Bah ouais, j'ai hâte d'entendre la suite.
Pareil.
Eh bien, on passe à quelques infos. Ouais. Alors, je crois que c'est moi qui commence, si je me plante pas.
C'est lundi,
en fait, c'est rappeler à la gare de Perrache, c'est à Lyon, il y a une grève depuis 6 semaines, en fait, des agents de nettoyage, etc., etc. Et en fait, enfin, c'est, vous pouvez pas le rater si vous utilisez PRH, parce que PRH est absolument dégueulasse, mais en même temps, c'est, si une grève n'avait pas d'impact, personne ne verrait les mouvements de grève. Retenez ça pour plein d'autres trucs. Ah oui. Bref. Donc, dans le soutien, en fait, en soutien aux grévistes, en fait, il y a un rassemblement qui est organisé, ben, lundi, demain, devant la métropole de Lyon à partir de 14h afin de pouvoir échanger avec les conseillers métropolitains. Réunis en conseil extraordinaire. Alors vite fait, c'est juste que jusque là, en fait, c'est la métropole qui gère, on va dire, les sociétés de nettoyage de PRH, et il y a une remise en question totale, en fait, de celles et ceux qui sont là à travailler. En fait, normalement, même s'ils changent de prestataire, les salariés qui sont sur place restent sur place, ouais. Et on va dire, ils changent de patron, en fait.
C'est un article du Code du Travail qui permet ça.
Voilà, et en fait, la métropole a décidé de changer ça. Donc voilà, soutenez au cas où les grévistes si vous le pouvez, et puis il y a aussi une caisse de soutien pour laquelle vous pouvez contribuer, et évidemment passer à PRH. Il y a un piquet de grève, donc vous pouvez toujours aussi prendre de l'info, etc., et diffuser autour de vous, parce qu'une lutte, c'est un peu l'affaire de toutes et tous.
Dit autrement, la métropole nous fait une Elon Musk.
c'est pas tout à fait faux.
Vouloir changer l'ensemble des salariés parce qu'on estime qu'ils sont pas bons et que on aura mieux avec d'autres, et que se servir du délit de marchandage, tout ça. Donc voilà, bref, je fais mon syndicaliste de base, mais pardon. Donc du coup, moi je vais donner une autre info. Alors ça n'a pas de rapport direct, mais c'est jeudi 24 novembre 2022 à 19h30 à la Lutine. Il y a la projection Les filles de Méduse. Alors c'est un court métrage documentaire sur les modèles vivants en présence des deux réalisatrices. Il y aura un repas et un bar sur place. La projection est à 19h30 à prix libre. Alors je vais juste vous lire le pitch, hein. Nous sommes les modèles, nous tenons la pose pour que l'on nous représente, que de nos corps naissent des images, des œuvres d'art. Nus, nous nous imposons au regard, nous nous figeons pour être observés longuement et étudiés minutieusement, et pourtant toujours nous disparaissons. Voilà. Et donc les deux réalisatrices des Filles de Méduse, donc Bénédicte Alloin et Léonore Lemâtre, seront là pour parler avec vous et dialoguer après le film. Et c'est donc le 24 novembre à 19h30 au 91 rue Montesquieu à la Lutine.
Et dernier rendez-vous, c'est samedi prochain, donc le 26 novembre. Il faut savoir que le 25 novembre, le vendredi donc, en tout cas le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et donc une manif est organisée à Lyon, mais dans plein d'autres villes, hein, regardez autour de vous. Le 26 novembre, en tout cas à Lyon, c'est à partir de 14h, c'est place Bellecour, avec une manif, mais je pourrais plus vous dire le parcours. Et donc voilà, donc il y aura plein d'assauts collectifs, etc., dont aussi des membres de Résist, dont on a déjà pu interviewer des membres et tout ça. Donc si vous voulez aussi les rencontrer, n'hésitez pas.
Et de Filaction aussi.
Et de Filaction aussi, il y a un happening, enfin voilà.
Mais
c'est l'occasion de se rencontrer.
Et si vous ne voulez pas sortir chez vous, si vous ne pouvez pas sortir de chez vous, il y a aussi un truc qui se passe sur Radio Canu. Et oui, c'est le 26, là, donc samedi aussi, et c'est une émission en public autour du fanzine des urbanismes. Voilà. Et alors donc, détruire les villes, mais vous n'y pensez pas. Mais si, on y pense. Voilà, ça donne bien l'idée. Donc, c'est la présentation d'un fanzine de critique urbaine de 15h à 17h en direct de l'annexe de l'ECG. Et c'est aussi sur Radio Canu. Donc, si vous voulez voir comment on fait de la radio, vous pouvez aller à l'ECG, parce que comme ça, vous verrez un plateau de radio et comment ça se fait. Et puis, si vous êtes chez vous, vous pouvez écouter Radio Canu. Et donc, du coup, l'ECG, j'ai oublié où c'est 25 rue Salomon Reinhardt dans le 7e. Voilà.
Ok.
Et merci d'arriver à 14h45, dernier cara, parce que c'est pour pouvoir placer tout le monde. Voilà.
Oui, et puis quand on fait du direct à la radio, c'est très chiant d'être coupé par des gens.
C'est aussi
on a
ça.
Déjà pu le vivre dans des émissions ici. C'est vraiment chiant, donc pensez à ça aussi.
Voilà.
Vous n'êtes pas seul, donc le truc c'est de faire collectif, et donc voilà, arriver à l'heure, c'est cool. Et ben nous, on vous donne rendez-vous dimanche prochain, 22-23 et un peu plus. Toujours sur l'antenne de Radio Canu. Et on va se quitter avec un titre que je vais annoncer. Ouais.
Clara, elle a décidé que ce soir, elle n'annonce rien.
Elle est en service minimum, quoi. Alors, on va se quitter là encore avec un tout nouveau titre d'une autre artiste que j'apprécie beaucoup, Francesca Guccione, avec le titre Utopia 4. Et alors, lui, c'est un extrait de l'EP 4 titres qu'elle a sorti, alors uniquement numérique, mais C'est toujours très bon, c'est toujours planant et c'est toujours très agréable à écouter. Donc on vous quitte en musique douce en espérant qu'elle vous sera agréable aussi. Et on vous souhaite bon courage pour la semaine à venir.
Et à la yes. J'ai oublié de dire, il y a aussi le retour du Petit Bazar, une émission qu'on aime beaucoup, qui est tous les samedis maintenant de 13h à 15h. Voilà.
C'est vrai.
Bah ouais, parce que quand même, on salue les copains qui reviennent.
Et ouais.
Mais c'était parti, ils sont revenus.
C'est tout à fait ça.
Ça fait toujours plaisir.
Une radio, une émission de musicalité.
Oui.
Voilà. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Des bisous.
Oui,
bon courage.
Bisous.
Ciao.
Salut.
Ciao.